Ça fait... Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 115 de Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertillon. Ça me fait terriblement plaisir de vous avoir en compagnie aujourd'hui pour cette rencontre hebdomadaire de discussion sur les objets de la culture pop. Cette semaine, parce que Doctor Strange s'en vient le 26 octobre et parce que Fantastic Beasts, vous avez souligné et noté le fait que j'ai dit Beasts au lieu de Beats, parce que j'ai dit Beats toute la journée, s'en vient le 18 novembre, l'on rencontre Elizabeth Simpson.
Salut, c'est merveilleux.
C'est les miracles de la baladodiffusion.
Voilà.
L'on rencontre aussi Christopher Chanty.
Allô?
J'ai toujours le goût de dire ton nom à l'anglaise.
Tu devrais.
Yeah!
Chelsea!
Et Alexandre Poirier.
Salut!
Pour parler de cet objet qui est la magie en culture populaire.
Oui. Mm-hmm.
Mais on va faire les introductions en vous demandant, quel est votre sort préféré?
Ah, moi, c'est clair que c'est Axio.
Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce
oui,
que
Axio,
pas tout le monde autour de la table
connaît
Harry Potter.
Axio est un sort d'Harry Potter, en fait, que on fait, par exemple, on dit Axio quelque chose, et cette chose, donc, quitte son endroit initial et vient nous rejoindre. Par exemple, ce qu'on voit, par exemple, dans le quatrième Harry Potter, Axio balai, lorsque Harry Potter veut avoir son balai pour son combat contre le dragon dans la Coupe de Feu. C'est vraiment pratique, puis des fois, quand je cherche des choses dans mon appartement, j'aimerais tellement avoir un Axio télécommande ou un Axio... Ouais.
Bière. Ben,
ouais. Bière. Mais c'est pour ça qu'il a inventé les clap-clap aussi. C'est.
Alexandre, ton sort préféré?
Ben, pour pas faire comme tout le monde, moi, mon sort préféré, c'est pas dans Harry Potter.
Ah, moi non plus, c'était pas dans Harry Potter, c'est parce dans... que je connais pas le fandom.
Mais c'est dans Donjons & Dragons 5. C'est un sort de barde qui s'appelle Vicious Mockery, puis c'est carrément...
Je l'ai tellement casté, ce spell-là.
Yes.
Oh my God.
En fait, quand tu lances ce sort-là à une cible, la cible, tu lui cries des insultes. Et elle reçoit du dommage psychique à cause de ça. Je veux dire, faire du dommage parce que tu t'insultes une personne, c'est quand même bien. On est respectueux,
et
mais quand même.
C'est un sort de niveau 1, donc ça nous permet de le faire vraiment en début. Et ça met une belle couleur à nos personnages lorsqu'on commence un party à D&D, ouais, effectivement.
Christopher?
Je vais aller un petit peu plus dark. Puis moi, en restant dans le lore de Harry Potter, je dirais que ce serait Imperio. Parce que contrôler des gens,
je pense qu'on va y
revenir. Tellement puissant.
On va y revenir à Imperio.
Ouais, je pense que oui.
Moi, ça trahit un peu ma génération, mais Magic Messon.
Yes!
Ah, ben
rien.
Oui.
That's it!
Les jeunes, vous délaissez vos classiques.
C'est un sort de combat. Donc, ouais. Est-ce que c'est ton sort préféré? Mais moi, j'ai dit Axio parce que, dans le fond, c'est un sort que j'aimerais avoir.
Ouais.
Parce que, dans le fond, un sort préféré, je sais pas, mais un sort que j'aimerais avoir, mais est-ce que tu considères que dans ta vie, tu as besoin de faire des Magic Messon?
Non, mais l'autre option, c'est Dos d'Avon. Ça, c'est peut-être trop de pouvoir pour moi.
OK.
Ouais,
en plus, que Magic Missile, c'était un des seuls spells dans les Donjons et Dragons, mettons, en troisième édition, qui touchait à tout coup.
Tu manques jamais.
Tu manquais jamais ton coup.
C'est pas comme la version d'Hearthstone, en tout cas.
tu peux manquer dans Hearthstone.
Ben, t'as jamais la cible que tu veux, en fait. C'est random.
C'est vrai qu'il est random.
Ben, c'est ce que j'aime beaucoup de Magic Missile, c'est que tu ne manques pas, puis c'est peu de dommages. Fait que c'est juste un désagrément. Mais cette question-là n'est pas anodine. Elle fait partie d'un test psychologique qui a été hautement testé. Oh. 32 questions pour apprendre à connaître la personne comme il faut. En fait, ça fait partie d'un grand registre que si tu poses cette question-là à quelqu'un, t'apprends un peu plus à propos d'eux.
Okay.
La première fois qu'on m'a posé la question, j'ai dit « vomir du sang ».
comme
ton sort préféré.
Ouais, c'est juste, mais il n'y a pas de...
Très métal.
Ben non, c'est juste la possibilité de pouvoir... du sang.
Ça en dit beaucoup sur toi, ça.
Sur toi-même ou sur les autres?
Ben, je suis pas comme si je projetais. Fait qu'inévitablement qu'il va y en avoir un peu qui tombe sur moi. Mais juste la possibilité de pouvoir faire ça. Ou l'éviter à comme 3 cm du sol. Des trucs très intéressants qui peuvent vraiment alimenter un party. Je suis dans cette chose-là. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est la magie. Puis c'est pas pour rien. L'affaire, c'est qu'en commençant les recherches sur la magie, et une fois de plus, en levant mon chapeau à Hélène, je me suis dit, je vais faire un petit historique de la magie. Puis là, j'ai ouvert mon ordinateur et mes livres, et je fais, oh, on n'aura pas fini si on commençait ça.
Effectivement.
Donc, en allant regarder les deux fandoms qu'on va observer aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est qu'on peut aller chercher un dénominateur commun sur ces deux pratiques-là, qui est assez large pour être capable d'inclure beaucoup, beaucoup de pratiques, mais pas assez pour qu'on ait besoin de parler de Merlin, malgré qu'on va parler de Merlin, inévitablement. Le truc avec les deux fandoms, que ce soit Doctor Strange ou Harry Potter, c'est qu'on parle ici d'une magie qui est investie dans un lieu. Et la tradition de la magie qui est investie dans un lieu, elle est très, très, très répandue. Dans Doctor Strange, on a le Dark Dimension, qu'on va parler plus tard, le Hogwarts Express dans Harry Potter, qui est ce lieu-là, un peu comme le sixième étage et demi de Being John Malkovich, la plateforme 9 et 3 quarts pour accéder le train. Donc, on est dans un non-lieu ou un lieu liminaire entre deux réalités. L'univers de Harry Potter commence, si je me trompe pas, dans le Londres contemporain, conventionnel.
Mm-hmm. Oui, tout à fait.
Mais il y a un glissement dans un autre monde. Cette tradition-là, elle existe énormément en magie. Elle a été investie d'une figure et d'un imaginaire.
Mais plus précisément, en fait, c'est que l'univers d'Harry Potter a tellement de sortes de protections qui fait que c'est pas tant que c'est un autre monde, c'est le même monde, mais c'est comme si c'était le même monde sur les mêmes étages.
C'est exactement ça. C'est là où on retrouve des œuvres de fiction comme Un Lundun de China Mieville, je pense aussi à Neverwhere de Neil Gaiman, qui se passe dans un Londres alternatif. Mm-hmm. Il y a le London Falling de Paul Cornell. J'ai pas lu Ghost of Manhattan de George Mann, mais ça aussi, ça fait partie de ce canon-là. Le scénario potentiel pour le troisième Ghostbusters, pas celui de Paul Feig, mais originalement, quand on voulait continuer la franchise, on a parlé d'un New York infernal, donc les Ghostbusters arrivait en dessous du métro new-yorkais et atteignait une sorte de Hellmouth. Mm-hmm, le Hellmouth est aussi un espèce de double lieu. Sunnydale est aussi un lieu californien par excellence, mais qui a un souterrain. J'ai pas réussi à trouver d'exemple concret par rapport à ça, mais il y a le sous-Paris aussi, un Paris interdimensionnel qui aurait tous les créatures...
Si je peux me permettre aussi, c'est quelque chose qui est très présent dans un œuvre que je vais parler un peu plus tard, mais de Les Magiciens de Lev Grossman, qui est justement où est-ce que les gens font un passage à travers les mondes, au début du livre est pas très comme compris. On dirait que juste un monde ou deux, puis finalement on découvre qu'il y a vraiment un multivers.
Exactement. Et voilà. Et la pratique de la magie est souvent relié à ce multivers-là. Mm-hmm. Cette idée qu'on n'est pas en train de faire la négation de l'univers consensuel, de la réalité consensuelle, on est juste en train de dire que ça vibre ou ça écho à un autre diapason, à une autre vibration. Ça va de même avec le Luandun, qui est un Luandun mythique. En fait, quand Londres était une ville qui honorait Diane, la déesse chasseresse, on nommait la ville Luandun, donc la ville de la lune. On a aussi dans l'œuvre de Terry Pratchett, Terry Pratchett depuis l'année dernière, avait fait tout le Unseen University. Ça, c'est toute une tradition qui a été reprise en bande dessinée par Morrison avec The Invisible College. Donc, ces lieux-là, comme tu dis, dans Potter, c'est à cause de sorts de protection, d'être capable de protéger ces lieux-là. Et c'est tous ces moments-là, où c'est toutes ces espèces de glissements de parallaxe et de réalité qui nous font tomber dans un monde qui est plus magique que magique. Mm-hmm. Donc, c'était comme la façon que j'étais capable d'unifier tout ce qu'on était pour parler aujourd'hui. Et je vais y revenir tantôt. Je fais de la magie.
En fait, ce que j'adore particulièrement dans cette émission dans Pop en Stock, c'est qu'on peut passer d'un tellement haut niveau comme que tu viens de commencer. Puis là, ça va revenir à ce que moi, je voulais parler aujourd'hui, qui est qui gagnerait entre Harry Potter puis Doctor Strange.
Sûrement Doctor Strange, j'imagine.
Attends, parce qu'ils ont des limitations chacun, puis c'est ça que je voulais parler, c'était de la genèse des systèmes de magie dans les deux œuvres, puis dans le fond, comment est-ce qu'ils traitaient la magie avec leurs forces et leurs faiblesses. Fait que en partant de la prémisse de savoir qui gagnerait entre les deux, commençons peut-être avec Harry Potter. J'ai découvert, en fait, parce que j'avais jamais vraiment enregistré cette information-là quand je lisais les livres, que le fait qu'un humain peut faire de la magie dans Harry Potter, c'est complètement lié à la génétique. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a un si grand accent aussi sur les magiciens de pure race dans le monde d'Harry Potter. Mm. En fait, c'est un gène dominant qui donne aux magiciens le pouvoir de faire de la magie. Ceux qu'on appelle des moldus ou des muggles pour les anglophones, c'est parce qu'ils ont des ancêtres qui ont soit pas le gène ou ont juste le gène récessif de la magie. Et à l'inverse, les magiciens qui ont le gène dominant, eux, sont capables de faire la magie.
Mais et si je peux me permettre, il y a plein d'exemples aussi de s'en mêler. Donc, des gens qui vont, comme, mettons, s'allier un père, une mère, un père, une mère, et qui va avoir... parce que l'univers de Harry Potter est excessivement hétéronormatif. Mais bref, ça, c'est un autre débat. Par exemple, Harry Potter est une personne de sang mêlé, n'a pas le sang pur parce que sa mère est une moldue qui a développé le talent de la magie. Donc, et d'autres exemples aussi.
Ça suggérait donc que la mère, elle a un ancêtre il y a longtemps qui lui a fait de la magie et que le gène est devenu récessif et donc est redevenu dominant avec la mère elle-même.
Sinon, Potter n'aurait pas pu être aussi puissant.
Est-ce qu'il est si puissant?
Je vous pose la question, comme je vous dis, je suis à
l'extérieur. Il n'aurait juste pas été capable de faire de la magie, en fait.
Ah, OK.
C'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'une fois que j'ai découvert que j'ai enregistré le fait que c'était génétique, c'est devenu assez assez clair aussi que tout au long du livre, c'est flagrant, en fait. Dès le départ, dans la vie d'Harry Potter, autour de 7 ans, il commence à faire des affaires bizarres, sans même avoir de baguette magique, sans même avoir de training. Et il y a déjà des événements magiques qui se passent autour de lui quand il y a des émotions fortes. Comme on peut se rappeler, par exemple, dans le premier film, où est-ce que la vitrine à Vanish, puis là, tout soudainement, il y a un serpent qui sort, puis...
Je l'ai vu, ce film-là.
Au moment où est-ce qu'il pense aussi que toutes les sorciers sont capables de parler à des serpents, ce qu'il apprend dans le deuxième, que non, finalement, c'est vraiment très, très, très bizarre.
Ouais. C'était tellement bien ficelé dès le départ. Ouais. Donc voilà, dès que t'as le joyeux dominant, t'es capable de faire de la magie, mais c'est seulement à travers une baguette, puis en allant à l'école, que c'est possible d'apprendre à la contrôler. Ceci dit, il y a des limites à la magie dans Harry Potter. Et en fait, il y a comme 4 règles. La première règle, c'est la conjuration. C'est extrêmement difficile à faire dans le monde de Harry Potter, apparemment. Donc, la conjuration, on parle de créer quelque chose à partir de rien.
Ouais.
Ils disent que plus que l'objet est simple, plus que c'est faisable, mais même là, l'objet va être frail par rapport à un objet qui a été créé naturellement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des milliers d'elfes de maison dans Hogwarts, parce qu'en fait, quand il y a des banquets, la bouffe n'est pas créée, elle est transportée magiquement sur les tables.
Ah, ouais. c'est les elfes de maison qui sont comme un peu les cuisiniers, ouais. Les servants.
Ouais,
ils font
exact.
Tout. Mais ils font, les elfes de maison possèdent la magie, donc sont capables de faire « c'est beau, on peut le faire apparaître ».
Okay.
Fait qu'elle sort pas nulle part, la bouffe, elle a été faite avec amour. Une autre limitation dans Harry Potter, c'est que c'est impossible de faire revivre les gens. Il y a des exemples dans les livres où tu peux contrôler des corps morts, mais il y a juste un peu plus comme en tant que zombie. Mais c'est impossible de redonner conscience à un être qui est décédé. La troisième limitation, c'est que c'est impossible de devenir immortel. Au mieux, puis là, j'espère que c'est pas trop des divulgâcheurs, tu peux devenir un fantôme, même si c'est pas glamour, puis tu peux mettre ton âme dans un horcrux en faisant des actes terribles pour te garder vivant, mais tranquillement, ton humanité s'effrite au fil du temps.
Ton nez aussi.
Mais
ton nez aussi.
Ça, c'est particulier parce que dans le premier Harry Potter...
The Sorcerer's Stone, non?
Exactement, où est-ce que, dans le fond, c'est la pierre philosophale de Nicolas Flamel qui est mise en place, c'est clair, net et précis, et on n'en reparle jamais. Mais tu sais, la pierre philosophale permet dans l'univers d'Harry Potter de devenir immortel, puis c'est pour ça que Voldemort veut avoir cette pierre-là.
En fait,
mais on en reparle juste
plus. Il arrive quoi d'ailleurs? Elle est détruite? Elle disparaît?
Elle disparaît
carrément.
Ben, c'est Dumbledore qui la reprend, puis il fait quelque chose avec, mais on ne la revoit plus pantoute.
Classique Dumbledore. Là.
Mais de ce que j'ai compris de la pierre philosophale, c'est que ça allongeait ta vie, mais pas indéfiniment.
Ah, OK.
Je pense qu'il venait un moment où est-ce que t'étais juste vraiment, vraiment vieux, puis t'avais 700 ans, puis là, c'était ton temps, dans le fond. Là. D'ailleurs, ils font référence à Nicolas Flamel, qui décide lui-même de finir sa vie en donnant la pierre philosophale à Dumbledore, parce qu'il est tanné de vivre, puis de voir tout le monde mourir autour de lui.
Mais c'est pas une fontaine de jouvence, c'est
non.
ça?
Tu continues
à vieillir, mais tu meurs pas.
Ouais, exact.
Ça sera pour la prochaine série de livres.
Ouais. Puis ensuite, un autre truc qui est vraiment important dans le monde de Harry Potter, quand on parle de magie, c'est que les émotions peuvent venir renforcer ou faiblir un sort, dépendant de la force de l'émotion et de la manière qu'elle est dirigée. C'est pour ça que quand la mère elle donne un sort de protection avant de mourir avec tout son amour pour Harry Potter, c'est pour ça que... C'est pour ça que le sort pour le tuer rebondit.
C'est pour ça que Jean-Michel, tu parlais de puissance tantôt. Est-ce qu'Harry Potter est puissant? Non. Je pense que c'est peut-être la leçon, pas principale, mais une des leçons qu'on apprend d'Harry Potter, c'est que la magie n'est puissante que grâce à ses amis et à sa famille.
Ah,
oui, oui, oui.
Together we are stronger than alone.
OK, ben je vais prendre ça en considération quand je vais défendre le camp de Strange tantôt.
Finalement, d'ailleurs, la baguette magique dans Harry Potter est cruciale pour contrôler les sorts. Sans ça, les sorts, ils seraient capables d'en faire, mais ça irait un peu n'importe où. La baguette devient un genre d'emblème pour être capable de diriger, en fait, le sort qu'ils veulent utiliser. Puis c'est la baguette qui te choisit. Donc, quand ils sont jeunes, ils vont au magasin, puis il y a comme des milliers de baguettes, mais il y en a comme 2-3 peut-être qui feraient la job. Puis c'est pas écrit qu'il y a une seule baguette pour chaque magicien, mais les chances sont que de faire les sorts avec une baguette qui n'est pas la tienne, ben, ça va donner des résultats moins.
Parce que tu peux voler les baguettes des autres dans le monde d'Harry Potter, ça se fait très très bien, mais si t'es pas, si la baguette la baguette peut changer de propriétaire aussi, mais c'est une question de fidélité. Donc la baguette peut changer son alliance, peut changer vers qui elle est fidèle. Si tu utilises la baguette d'un autre et la baguette ne t'est pas fidèle, elle pourrait carrément ne pas réussir tes sorts.
Fait que voilà pour Harry Potter. Fait qu'on voit qu'il est clairement peut-être que c'est moins important comme sort qu'ils sont capables de jeter dans le monde de Harry Potter versus Doctor Strange. Mm-hmm. Sauf que la magie est innée dans l'humain dès qu'il est né, en fait. C'est pas quelque chose qui est comme acquis, c'est quelque chose qui est inné.
Pour faire un petit parallèle à D&D, là, parce que j'aime ça de parler de Donjons et Dragons, là, mais dans Donjons et Dragons, en fait, il y a deux classes, trois depuis la cinquième édition, mm-hmm. mais principalement deux classes de Spellcaster Arcane. T'as le Wizard et le Sorcerer. Et le Wizard, c'est quelqu'un qui apprend les arts de l'arcane. Donc, il connaît beaucoup de sorts, mais il peut pas en lancer beaucoup. Mm-hmm. T'sais, je veux dire, il y a une grande connaissance, mais au niveau des sorts qu'il peut lancer à chaque jour, c'est très, très limité. Alors que le Sorcerer, c'est vraiment c'est quelqu'un de qui lance des sorts comme s'il n'y avait pas de lendemain, qui lance plein de fireballs, mais il en connaît pas beaucoup. En fait, il est né avec ça, il sait pas trop comment contrôler, il s'en fout un peu. Puis
On reverse ça, puis on va avec Doctor Strange maintenant. Je vous avoue que je connais un peu moins le monde de Doctor Strange, mais je pense que Jean-Michel est là pour me sauver si jamais il y a quelque chose.
Moi, te régler ça.
Donc, de ce que j'ai compris, c'est le sorcier suprême de la Terre. Mm-hmm. Il utilise la magie pour défendre celle-ci d'attaques d'autres mondes.
Absolument.
OK. Sa magie est dérivée d'une maîtrise de la magie noire, une magie qui nécessite une concentration extrêmement développée, ainsi que du willpower, soit du bon vouloir. Je pense que la magie dans Doctor Strange est acquise. Il va s'entraîner avec quelqu'un. Je pense qu'il est comme ciblé pour devenir le sorcier suprême dès sa naissance, mais c'est quelque chose qui est acquis avec le temps?
Non, c'est pas tout à fait ça. C'est un statut qui est donné à une personne. Okay. En fait, tout le Sorcerer Supreme, c'est que ça provient d'une source qu'on appelle Vishanti. Donc, Vishanti lègue cette espèce d'épithète-là de Sorcerer Supreme à une personne qui va défendre le realm.
C'est comme les divinités, là.
Ouais.
Ouais.
Parce que Vishanti, c'est se compose en trois divinités qui est, là, je vais essayer de m'en rappeler, c'est Oshun, Ogot et Agamotto. Mm-hmm. Doctor Strange est le porteur de l'œil d'Agamotto, qui est l'incarnation matérielle de la puissance de cette divinité-là. Agamotto a une fois tenté de se matérialiser à Doctor Strange et il a pris la forme très familière du mille-pattes dans Alice au Pays des Merveilles.
Okay.
C'est de ça qu'il a l'air. C'est lui la source principale de cette magie-là. L'affaire, c'est que le statut de Sorcerer Supreme est présentement convient à Stephen Strange, mais ça n'a pas toujours été le cas. Merlin l'Enchanteur, je l'ai promis, j'y reviendrai, a déjà été le Sorcerer Supreme. Et il va de même aussi pour Salomé. Elle l'a déjà été. Durant le 17e siècle, c'est un Quaker qui s'appelait Hiram Shaw qui l'a été. Ensuite, The Ancient One, qui est celui qui a entraîné Doctor Strange. Plus récemment, sous la plume de Brian Michael Bendis, c'est Jericho Drum, que vous connaissez probablement, inévitablement, certainement que vous connaissez, sous le nom de Brother Voodoo. Donc, l'incarnation du voodoo dans l'univers de Marvel a un certain point était le Sorcerer Supreme. Sous cette initiative-là, Bendis a tenté de cataloguer tous les sorts de Vishanti. Je pense pas que ça a été, ça a probablement été tout recensé sur un site web quelque part, mais toute la run de Bendis sur Avengers, à chaque fois que Doctor Strange ou Brother Voodoo exécutaient un sort de Vishanti, on disait 173, Eye of, et ainsi de suite. Les sorts connus de Doctor Strange, c'est essentiellement la projection
astrale.
Astral, merci beaucoup, c'est le mot que je cherchais. Et aussi la projection des sens, les envois de petits éclairs à la Ronnie James Dio. Mais ça provient tout de cette force, de cette force simple-là qui est Vishanti.
Mais Doctor Strange, il n'est pas né Sorcerer Supreme.
Non.
Il devient après s'être entraîné avec The Ancient One.
En fait, il le devient une fois qu'il comprend les limitations du corps. Donc, l'origine de Doctor Strange, c'est que c'était un playboy chirurgien extraordinaire, ouais. Accident dans les Alpes françaises, il s'est abîmé les mains outre récupération, donc il ne pouvait plus jamais opérer. Et dans le désarroi, dans l'effondrement de la personne qui est Stephen Strange, ces moines des Alpes l'ont amené en haut et ont dit « Puisque tu n'es rien, nous pourrons te reconstruire pour être non pas le chirurgien suprême, mais le sorcier suprême. » Et c'est ce qui a amené. Non, il n'est pas entraîné dans les arts occultes.
Okay.
Du tout. C'est ça.
OK, cool.
Fait que tout ça
mais
par son...
il étudie pas le... En fait, c'est l'impression que j'ai eu parce que j'ai lu le...
Suite à...
Ouais, c'est ça, parce que j'ai lu, je pense que c'est Strange Origins récemment, qui était comme un one-shot, en fait, de... Non, c'était pas un move de Ronnie James Dio, c'était juste...
Moi, j'aime ça.
C'était l'épaisseur, mais peu importe, c'était... En fait, c'était un un trade paperback self-contained, donc il y avait toute l'histoire à l'intérieur, puis c'était vraiment il apprend, en fait, il lit, il étudie la magie pour l'apprendre, mais c'est ça un peu, il est pas entraîné, mais il l'étudie, en fait. Il y a pas une propension à devenir un grand magicien à la base. Il y a juste une tête de cochon, puis il l'apprend. C'est ça,
c'est
en gros.
Pas mal, ça, moi, oui. Assisté par Wong. Ouais. Dans le Sanctum Sanctorum à New York.
Donc, j'ai sorti trois trucs qui m'ont frappé, en fait, de l'histoire de Doctor Strange. La première, qui a rapport à la magie, évidemment.
Oui.
La première chose, c'est qu'il utilise des mots pour faire ses sorts. Puis chaque mot qu'il utilise, c'est comme un symbole qui a une signification. Mm-hmm. Puis l'arrangement de ces mots-là, ou de ces symboles-là, ça donne un sort différent à chaque fois.
Il y a beaucoup de systèmes, je sais que c'est comme une grosse parenthèse, mais il y a beaucoup de systèmes dans les grandeurs nature. Oui. Qui utilisent ce genre de façon-là pour construire leur magie.
Il y a quelque chose comme de runique, là, avec ça. Ouais. En fait, c'était drôle, quand je lisais ça, je pensais à la programmation. Ah. C'est comme des lignes de code, puis dépendant de comment tu les agences, les books ci ou les books ça, puis là, ça fait des trucs différents à chaque fois.
Absolument, parce que, si tu me permets une petite parenthèse par rapport à ça, en bande dessinée, l'usage de la magie se fait souvent à la fois avec un travail textuel, mais aussi avec un travail iconographique. Il y a des types de magie qui fonctionnent seulement dans le registre du dessin. Il y a des types de magie qui fonctionnent seulement dans le registre du texte. Je pense notamment à la pratique magique de Zatara Zatanna, qui, elle, fait juste dire les mots à l'envers. Ouais. Sa magie est limitée essentiellement à ça. Tous les mots sont à l'envers. Puis c'est une pratique bien connue et bien commune dans l'univers de DC. Il y a des méchants qui utilisent juste ça. Va de même aussi avec Doctor Strange, qui, lui, de par le fait que c'est Ditko qui l'a créé, est une magie beaucoup plus visuelle. C'est vraiment dans les composantes graphiques qu'on voit l'émergence de la magie. Le reste, dans le textuel, c'est, pour le meilleur et pour le pire, des espèces de kerfuddle doodling de phrases lovecraftiennes.
Le deuxième truc qui m'avait beaucoup frappé quand je faisais ma petite recherche sur Doctor Strange, c'est qu'il utilise des forces divines pour augmenter le potentiel de ses sorts, vu qu'il y a un lien direct avec Vishanti. Et il est capable de prendre leur force pour augmenter la force de ses sorts, mais il est aussi capable de prendre la force d'autrui, comme de forcer les gens à genre prendre la force comme il veut, sauf que ça prend une concentration extrême. Voilà, puis là ça m'a amené en fait à voir les limitations de Doctor Strange, qui essentiellement, vu qu'il utilise des mots et des gestes pour faire ses incantations, ben dès qu'on l'empêche de faire ça, puis on le voit souvent dans les BD, ben il est un peu fichu.
Il fait casser souvent les mains.
souvent les mains. L'autre truc,
c'est comme ça que Hulk le règle la dernière fois, là, dans World War Hulk, quand il revient pour se venger. C'est simplement ça. Il fait juste écraser les mains, puis Strange est comme, well.
Puis aussi, donc, qui est super vulnérable quand il prend la force d'une autre entité, parce que soudainement, c'est briser sa concentration. Il perd son sens de lui-même, puis retrouver ça, ça y prend du temps, dans le fond.
Ouais.
L'autre truc aussi, c'est que, vu qu'il est humain, il faut qu'il mange, puis il faut qu'il dorme. Puis quand il fait de la projection astrale, faut qu'il garde ça en tête tout le long, parce que s'il part trop longtemps, ben lui, son corps dépérit tranquillement, puis il peut en mourir.
Puis on peut, dans les premiers numéros, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'il est continuellement en train d'utiliser et d'abuser de ce pouvoir-là du corps éthérique, mais les vilains ont des très, très bonnes techniques pour être capables de conserver cette âme-là quelque part, puis c'est ça qui fait l'enjeu. C'est « Ah, je dois retourner, parce que qui sait qu'est-ce que quelqu'un est en train de faire avec ma dépouille.
» J'ai aussi lu qu'à chaque fois qu'il utilise un sort, ça draine tranquillement son énergie de manière irrécupérable. Donc, à force de faire des sorts, tout au long de sa vie, il va finir par périr, parce que c'est juste ça y prend de son soi-même à chaque fois un petit peu. Fait que là, avec tout ça en tête, essayer de décliner qui gagnerait entre Harry Potter puis Doctor Strange, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt dans D&D avec le Wizard puis le Sorcerer. Soit que il y en a un qui c'est un petit peu plus... C'est de plus grande envergure, mais acquis. Versus un autre qui est de moins grande envergure, mais inné. Et que qui gagnerait entre ces deux-là? J'ai l'impression que Doctor Strange est comme plus vulnérable, mais j'ai l'impression que c'est aussi une question de qui claque des doigts en premier.
T'sais. Mais on se l'est dit, Harry Potter, il est rien sans ses amis.
Ben, premièrement, il y a ça, mais il y a aussi, je pense que... je me rappelle plus quel sort il fait quand il se combat Voldemort à la fin du set, mais je pense qu'il fait un sort vraiment pas rapport, là, tu sais, comme Harry Potter, il serait pas capable de faire un Avada Kedavra.
Ouais,
je
pense
comme...
que c'est le désarmer ou quelque chose comme ça.
Je pense que c'est
c'est
underwhelming. Mais exactement, mais tu sais, c'est que Harry Potter, dans un combat, je pense qu'il va, c'est comme qui gagnerait. De toute façon, Harry Potter, il tuerait pas, tu sais. Ben, il va jamais pour tuer, tu sais. Il a jamais enlevé la vie de personne dans toute, dans tout l'univers dans tout l'univers des livres là, donc je verrais est-ce que la question si c'était juste au niveau de la dynamique ou de la source de magie bon bref mais au niveau personnalité je connais pas du tout Doctor Strange mais Harry Potter il va faire expirer la mousse, il va voir qu'il y a pas d'armes, il va faire comme Petricus Totalus, puis ça va être réglé.
Ben, Stephen Strange, c'est quelqu'un de très humble, je crois.
Ouais. C'est un protecteur plus que n'importe quoi d'autre. Fait que lui aussi, l'espèce de code de pacifisme s'applique. Je sais pas. Mais Stephen Strange, j'ai aussi, il y a un numéro extraordinaire qui arrive très, très rapidement dans la run de Ditko et de Lee, où on voit Stephen Strange aller magasiner au dépanneur. Il se promène en civil. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout peur d'avoir la cape. D'aller acheter une pinte de lait. Il y a ce numéro-là, je vous jure, ressemble essentiellement à l'introduction de Big Lebowski, mais avec le sorcier suprême. Donc, peut-être une plus grande confiance, une plus grande malléabilité par rapport à sa pratique que Potter n'a pas. Moi, j'ai l'impression que Potter, c'est un petit psychorigide, là. Ça, c'est mon enfant.
Ah, c'est intéressant.
J'ai l'impression qu'il y a un côté rationnel aussi à Stephen Strange, par exemple. Il serait capable de faire un calcul utilitaire puis tuer quelqu'un parce que ça en sauverait mille autres.
C'est ça. Ouais, bon point.
Mais Stephen Strange, en fait, Doctor Strange, en général, j'ai l'impression que ça tend à relier un peu les deux mondes, le monde physique puis le monde astral, magique, alors qu'Harry Potter, ça met de côté un peu le monde réel. Tu sais, on entend vraiment jamais parler des répercussions de Voldemort.
Harry Potter, c'est clairement chaotique good, son alignement. C'est clairement. Parce qu'il va jamais, il va jamais suivre les règles. Il est tout le temps en train d'aller contre les règles du ministère.
Neutral good.
Dans le sens qu'il respecte pas les. Mais neutral, ouais, peut-être. Mais
avec ses amis, avec les gens, tu sais.
Ouais, mais là, tout dépend. Écoute-moi, là, des discussions d'alignement, là, je peux en avoir pendant des heures, puis on n'arrive pas à des.
Non, c'est ça. On prend un épisode sur D&D.
Dans l'image que si on s'entend, mettons que Chaotic Good, c'est Robin des Bois, c'est dans ce sens-là Chaotic Good, mais si on s'y entend pas, en tout cas, bref.
Okay. Moi, non, OK.
Je me suis dit que ça, quand j'ai vu que le thème de cette semaine était ça, puis que j'avais vu en plus la semaine passée sortir un super tableau, en fait, statistique sur les sorts d'Harry Potter, je me suis dit, mais parlons de sorts, et bref, c'est en fait... aller dans plein de sens après, mais on va commencer par parler de chiffres. Donc, les sorts dans Harry Potter, combien de sorts sont explicitement nommés ou sous-entendus à travers les livres d'Harry Potter? Dans le premier livre, Harry Potter est à l'école des sorciers, c'est ça le premier?
Oui,
ouais, voilà. Il y a 7 sorts qui est nommé. Okay. Dans La Chambre des Secrets, 13. Le prisonnier d'Azkaban, 54. On vient de faire un petit bond. La Coupe de Feu, 73. L'Ordre du Phénix, 87. Le Prince de Sang-Mêlé, 70. Et Les Reliques de la Mort, 128. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus de sorts que 128 sorts.
Merci.
Et il faut pas oublier aussi que les sorts peuvent être inventés et créés. Donc, le lore peut continuer à s'expandre. Et ça m'étonnerait pas que c'est que les livres, mais si on prenait en plus les films, ou si on prenait en plus les films à venir de Fantastic Beasts and Where to Find Them, on trouverait probablement encore plus de sorts. En fait.
Mm-hmm. Mais existe-t-il un grimoire?
Je crois que non.
Pas encore.
Sûrement que c'est recensé quelque part.
On a un début de grimoire avec tout ça parce qu'on a quand même la liste de tous les sorts qui sont nommés dans les livres. Mais comme je dis, c'est qu'il y en a probablement beaucoup plus. Les plus populaires? Axio, le sort que j'ai dit tout à l'heure, et dans les plus populaires, donc Axio qui est donc l'action de faire rapprocher quelque chose de nous, à 34 fois, mais je pense qu'il prend plus souvent, mais 34 fois, il aurait été nommé.
C'est ça, 34 fois qu'il a été utilisé? Ouais.
Dans la série.
Dans la série de livres.
C'est bon. Ouais. 34 occurrences du sort.
Ex aequo avec c'est 34 items, mais tu sais, comme le... Je suis pas bien bonne pour regarder des charts, là. Je vous avouerai. Il a été nommé aussi 34 fois Expecto Patronum, qui est un sort de défense, donc, que Harry apprend dans le troisième livre par le professeur Lupin. Ensuite, on a Stupefy, qui est un sort de...
Immobilisation,
merci. À 27 fois. Expelliarmus, donc, qui est le sort pour faire dévier une baguette, pour que la personne doive lâcher sa baguette, qui est nommée 25 fois. Lumos, pour faire apparaître une petite lumière au bout de la baguette. Et ensuite, 21 fois, Avada Kedavra. On pourrait continuer comme
qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce que ça fait, Avada Kedavra?
Ça tue.
Ça tue.
Instant death.
Instant death.
C'est Harry Potter, c'est le seul qui a survécu.
Mais comment ça, tu connais pas Avada Kedavra? C'est comme...
Ben, je connais la chanson, mais c'est à cause des Simpsons.
Ah, OK.
tu disais pas que ça va contre un
Avada Kedavra
tu peux pas faire revivre quelqu'un mais tu peux les tuer d'une shot. Ouais.
Mais Avada Kedavra fait partie des sorts qu'on appelle dans le lore d'Harry Potter les sorts impardonnables.
C'est ça, OK, on avait parlé avant d'être en nombre, merci pour le
ouais, voilà. Ouais. Le sort impardonnable qui était donc les Crucio qui est le sort de torture, Imperio qui est le sort de contrôle mental et Avada Kedavra qui est un sort d'instant death.
Exactement.
Donc c'est la mort instantanée et on a des personnages tels que Voldemort qui en abuse tout le long de la série et qui est nommé par d'autres personnes, mais je pense que c'est un sort qui est fait uniquement par des mange-morts dans la série de livres, parce que même quand Mogriff a l'œil le fait dans le quatrième, il est à ce moment-là
un
mange-mort.
David Tennant,
ben, exactement.
Je me souviens plus, Bartimus Crouton Junior. Ouais.
En tout cas, le fils de l'autre, là.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, donc je pense que c'est même un sort qui est vraiment, c'est tellement mal vu de le faire que, et même, bon, il y a Snape qui le fait dans le sixième, mais c'est aussi un ancien mange-mort, mais bon, bref, donc c'est quand même intéressant pour ça. Bref, pensez au sort d'Harry Potter, ça m'a fait rappeler en fait comme l'image de la magie dans Harry Potter justement. Quand on commence à lire Harry Potter, c'est quand même l'histoire d'un petit garçon que quelqu'un vient chercher à la maison. Ben t'as un géant qui arrive et qui dit bonjour jeune Harry, suis-moi, viens sur ma moto volante, tu vas devenir un sorcier. Ce qui est quand même un bel événement à vivre dans sa vie. Tu vas devenir un sorcier. Tu es invité à aller dans une école de sorcellerie. Apprends à devenir un sorcier. Et là, ils vont apprendre justement des petits sorts comme Alohomora, puis Wingardium Leviosa. Donc, des super beaux sorts. Et plus l'histoire avançait, j'avais l'impression que, ben, premièrement, c'était beaucoup des sorts de combat qui vont être développés parce que c'est une histoire d'aventure où est-ce qu'il y a des dualités. Alors oui, il faut des sorts de combat, donc ça prend presque toute la place. Mais aussi des sorts d'utilité, en fait. Même si on n'a pas tous les noms et que je pourrais pas vous les nommer par cœur, mais tu sais, je veux dire, un sort qui va te permettre de faire la vaisselle automatiquement, un sort qui va te permettre de classer des choses, qui va te permettre de réparer des petites choses et tout ça. La magie dans Harry Potter est pas merveilleuse dans le sens que ça sert à... Comment dire? La magie, en général, va servir à deux choses souvent. Va servir à braver l'impossible, donc d'aller au-delà des possibles, et d'aller au-delà des difficultés qu'on a. Donc, de outrepasser les difficultés. Jamais dans la magie va nous permettre, entre autres, avec, mettons, Imperio, de comme faire justement, ben là, je suis pas capable de contrôler quelqu'un, je suis pas capable de le convaincre, donc je vais le convaincre mécaniquement. Bref, ça faisait penser que toute l'utilité est là en revenant à « tu vas devenir un sorcier ». Bref, je vous fais comme vraiment tout le chemin que c'est passé, je sais pas si c'est clair. Mais c'est que, qu'est-ce que tu deviens lorsque tu gradues de Poudlard? Qu'est-ce qu'on voit? On voit, tu peux devenir un inventeur, un équivalent d'un ingénieur, mettons, là, t'sais, comme, donc tu vas créer des sorts, tu vas créer des bébelles, tu vas créer peu importe. Tu peux devenir commerçant, avoir un magasin où tu peux vendre des trucs de magie ou peu importe. Tu peux devenir fonctionnaire, ça c'est très bien vu. Le ministère de la magie est omniprésent. On dirait que tout le monde travaille pour le ministère de la magie. Tu peux devenir enseignant ou tu peux devenir aurore, qui est l'équivalent des policiers. Dans Harry Potter. Donc, ce que Harry Potter va finir par devenir, c'est son rêve. À partir du cinquième livre, il le dit. Donc, je veux devenir un aurore, je veux devenir un policier, justement. Et aussi, l'aspect, comme tu sais, tu vas apprendre à devenir un magicien, mais il va falloir que si tu veux avoir des bons métiers, que tu fasses ton buzz, qui est l'équivalent des examens ministériels du secondaire, ou si tu réussis à avoir des bonnes notes en secondaire 4, ben là, tu vas pouvoir aller avoir accès à beaucoup de programmes à l'école. Et là, c'est comme si tu réussis tes buzz en cinquième année de Poudlard, tu vas pouvoir avoir accès à des meilleurs cours les autres années, et ainsi pouvoir avoir... Dans le fond, les notes que tu as à Poudlard vont déterminer les métiers que tu vas faire. Et là, je réfléchis à ça, puis je me dis, mais Montadine, que c'est pas merveilleux comme univers où, dans le fond, tout ce que tu fais, à part le fait que tu connais le monde caché de la magie, je veux dire, il y a absolument aucune nuance avec le monde des moldus. Je veux dire, tu vas apprendre des outils qui vont te permettre de faire un métier pour que tu deviennes officiellement utile à ta société magique. Mais c'est tout. Tu sais, il y a pas de... Et c'est pour ça que je réfléchissais à ça et ça me faisait penser, en fait, à Les Magiciens de Lev Grossman. Et c'est pour ça que je vais faire une parenthèse rapide parce que je sais que c'est pas du tout le sujet qu'on a aujourd'hui. Mais dans Les Magiciens, le magicien, c'est pas inné, c'est acquis la magie. Et c'est réservé à un, les personnes, en fait, de, qui vont étudier à Brickville, Brickbill. En tout cas, j'ai comme un petit, ça fait longtemps que je l'ai lu, là. Mais, lorsque tu vas étudier dans l'école de magie de l'univers de Lev Grossman, c'est une élite qui est choisie à travers des gens qui sont potentiellement vont à Harvard ou tout ça, et là sont extraits de leur monde réel, amenés dans un monde parallèle où c'est comme non, je veux que t'étudies la magie, mais il faut que tu passes des tests très 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 rigoureux, ça va être une éducation qui va durer 5 ans, tu vas devenir un magicien, et là bon notre héros de l'univers va réussir ses tests, va devenir un magicien, et à la fin de son éducation de 4 ans, parce qu'il est tellement brillant qu'il saute une année. Mais bref, tout ça pour dire qu'à la fin de son éducation de 4 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement, en fait, il leur dit, vous avez absolument aucune utilité. Maintenant, vous connaissez la magie, vous êtes donc des grandes personnes très érudites. Voici une allocation universelle pour le reste de vos vies et de vivre jusqu'à la fin de vos jours votre vie en tant que sorcier, ce qui fait des gens complètement névrosés dans cet univers-là. Et ça me faisait réfléchir, en fait, justement, à comme, on crée des univers merveilleux, mais on dépasse même pas tant le ce qui nous est connu et ce qui nous est réel, c'est-à-dire comme qu'il faut que tu aies une certaine utilité en tant que travailleur, ou du moins si on considère que non, c'est tu vas clairement pas être capable de fonctionner dans le monde réel, par exemple les sorciers dans le monde des moldus, ouais. En étant incapable de fonctionner à l'intérieur de cet univers-là, tu vas devenir névrosé si tu réussis, si tu dis il faut que je retourne dans cet univers-là. C'est pour ça que les gens qui étudient la magie deviennent hyper dans Harry Potter, deviennent hyper
spécialisés dans leur d'une certaine façon.
Effectivement, mais j'allais surtout dire qu'ils traînent presque plus avec des moldus, là. C'est très rare que tu vois, en fait, dans l'univers d'Harry Potter, c'est presque inexistant, là, comme, c'est vraiment un monde qui devient séparé. Quand tu fais le pas pour tomber dans le monde des sorciers, il y a absolument aucune raison pourquoi tu fréquenterais des moldus. Et vu que tous les gens qui se spécialisent utilisent la magie, il y a pas de travailleurs sociaux non plus sorciers. C'est ça. Tout ce qui est humain est pas développé dans Harry Potter, parce que t'as des infirmières ou des infirmiers, comme mettons Madame Pomme Fraîche, ouais. dans l'univers d'Harry Potter, qui est l'infirmière de l'école à Poudlard. Je sais que je voyais les points d'interrogation dans tes yeux, Jean-Michel, mais cette personne-là a pas de, je veux dire, y a personne qui est spécialisé dans comment gérer des humains, genre. No shit que t'as des Voldemort qui arrivent, je veux dire, personne aide ces gens-là.
Wow.
Il manque de travail social.
Mais c'est sûr que ça manque de travail social, tu sais, je veux dire, en plus, tu sais, c'est comme, c'est pas compliqué, là. Tout a une raison magique. Tout doit être réglé par la magie. Alors que non, il y a des choses qui ne se règlent pas par la magie dans l'univers d'Harry Potter. Et t'auras beau vouloir créer des gens comme des bons fonctionnaires, mais tu leur fais manquer un. En fait, je pense qu'au final, les gens d'Harry Potter vont manquer autant que les moldus. En manque de ne pas connaître l'univers magique. Et que la meilleure, et comme tu dis, il faut, pourquoi protéger les moldus? Pourquoi ne pas faire un beau mix de tout ce que moi je développe en tant que moldu, peut-être que je pourrais apporter tellement un sorcier et vice versa, tu sais.
Mais en fait, il y a quand même, la dualité est quand même intéressante entre le monde moderne comme on le connaît puis le monde des magiciens. Puis je pense que ça se voit surtout à travers le personnage du père des Weasley.
Mm-hmm.
Que lui, il est complètement fasciné par comment est-ce que les humains ont réussi par l'ingénierie à comme développer des outils pour
faire voler des avions,
faire voler des avions au lieu de l'éviter, ou faire fonctionner une auto. Il est comme obsédé en fait par la mécanique humaine. Puis comment
est-ce qu'il est vu comme un hurluberlu par les gens qui promeuvent une vie complètement pleine de sorcellerie. Je veux dire, les gens les plus racistes sont les Malfoy et ils traitent de traîtres presque.
100%. Mais n'empêche que moi, quand je le lisais, je me disais. Bah, c'est vrai qu'on est cool, on a inventé plein d'affaires, tu sais. Genre les magiciens, mais il y a de quoi nous envier, je veux dire. On est quand même
quelque chose d'un peu sectaire qui va à l'encontre de l'idéologie derrière Harry Potter, qui est de d'apprécier les gens dans leurs différences, puis que c'est pas une raison de tuer quelqu'un parce qu'il est moldu ou peu importe, parce que le monde des sorciers justement est toujours séparé du monde des humains. Ce qui devrait pas être le cas au final, parce que, je veux dire, Voldemort, justement, on n'en entend pas vraiment parler dans les livres. On sait qu'il veut s'en prendre au monde des moldus, mais on sait pas vraiment c'est quoi les conséquences. À part peut-être faire péter des fenêtres à Londres, mais tu sais, c'est
mais
essentiellement
ça. Mais je pense que Voldemort, au début, voulait comme être le plus puissant. Ouais. C'était plus ça. Tu sais, je pense que c'est plus... Il y a des personnages comme les Malfoy qui, comme, clairement attaquent les gens moldus, mais je pense que Voldemort est un être de sa société qui vient d'une famille complètement dysfonctionnelle, en fait d'une mère monoparentale qui a dû le placer en orphelinat, qui a vécu une vie de pas bon, qui est l'héritier de Serpentard. C'est devenu son identité en devenant, ok, ben je sais pas qui je suis, j'ai été rejeté, il y a clairement un trouble de l'attachement, et en plus de là à dire que j'ai un aide qui s'appelle Salazar Serpentard qui vient par des serpents, qui me dit t'es mon élu, moi je t'aime, puis fais ce que je te demande de faire, puis que pendant des années c'est ce qui va le motiver, puis qui va ensuite développer une fixation sur comme bon ben j'ai vécu une mauvaise vie, donc je vais faire souffrir tout le monde, mais en conséquence il faut pas que je meure parce qu'il faut que je fasse souffrir le plus de gens le plus possible, le plus longtemps, tu sais. Mais c'est si il y avait des travailleurs sociaux, la mère de Voldemort aurait été aidée, puis il y en aurait pas de problème.
Non.
ça peut être une métaphore aussi. Harry Potter, ça peut être une métaphore pour, tu sais, les études supérieures. Tu fais quoi après ça quand ça, t'es sorti
ouais,
de là?
T'es comme un bac en com, tu sais, t'es juste comme...
Ouais. Une maîtrise en jeux vidéo. OK, en tout cas...
Ben, en fait, moi, c'est par rapport à la conclusion. En fait, je veux retourner au début du 20e siècle avec un homme qui s'appelle Austin Osman Spare, qui est un peintre, en fait, qui a été sur le terrain pendant la Première Guerre mondiale, mais passe à l'histoire beaucoup plus comme étant l'instigateur de la pratique de la sigil magic. Donc, en fait, Austin Osman Spare était un contemporain de Aleister Crowley. Aleister Crowley qui utilisait une magie beaucoup plus tellurique. Austin Osman Spare, lui, a amené toute cette idée-là de la création d'un objet ou la création d'un icône qui serait la projection magique. La sigil magic, essentiellement, est une condensation de forme physique d'une projection d'intention. Et là, c'est pas de la fiction, c'est véritablement une pratique qui a fait école, qui a été reprise plus tard par un autre mystique qui s'appelait Phil Hine, notamment dans deux livres qui s'appellent Prime Chaos et Condensed Chaos. Et cette pratique-là, comme je vous dis, est essentiellement d'être capable de créer une représentation graphique d'un désir ou de quelque chose qu'on voudrait projeter dans l'éther. C'est une forme souvent abstraite, artistique. Ce sigil-là nous permet une communication entre le monde concret et le monde éthéré, le monde mystique. Austin Osman Spare a été bien connu dans les cercles de magie sigilisante. Ça se formait un peu le terme en disant que c'était chaos magic. Et plus récemment, parce que cette pratique-là est tombée dans l'usage commun via deux auteurs de bande dessinée très célèbres, Alan Moore et Grant Morrison. Grant Morrison a transformé le Sigil Magic et le Chaos Magic en quelque chose que lui, il appelle le Pop Magic. Et le Pop Magic, c'est l'utilisation quasi totémique, mais vraiment toujours dans l'optique du Sigil, d'une forme, puis là, je vais juste expliciter mes points par rapport à ça. Si l'on veut augmenter nos attributs de Superman dans notre personne, l'on peut, ça c'est d'après le Gospel de Grant Morrison, l'on peut prendre Superman comme un avatar et tranquillement greffer des attributs de cette personne-là sur nous-mêmes. Ou utiliser littéralement le sigil, parce que le S de Superman est un sigil, il représente de façon iconique les valeurs de ce personnage-là. L'on peut utiliser le S ou le F de Fantastic Four ou l'éclair de Flash, parce que là, vous voyez, qu'en culture populaire, il y a énormément de ces formes-là. On peut les utiliser comme des artifices mystiques. Tout ce pop magic-là est de plus en plus en train de se concrétiser autour des formes de la culture populaire. Morrison s'en est servi énormément pour The Invisibles. Un des exemples les plus célèbres de l'utilisation du pop magic, c'est cette série qui était imprimée chez Vertigo dans les années 90, était sur le gouffre de la cancellation. Morrison, en grand mystique, en grand occultiste, a décidé d'organiser un truc qui s'appelle le Wankathon. Donc, il a demandé à ses auditeurs, pardon, pas ses auditeurs, on parle d'un livre, ses lecteurs, à un moment précis, à une date précise, à un moment précis dans la journée, de se masturber pour cumuler une énergie orgonale. Bon, l'orgone, c'est une énergie sexuelle qui nous vient de William Reich, c'est une autre affaire, mais de cumuler les énergies sexuelles pour être capable de projeter une intention dans l'univers et de conserver le titre en circulation. Invisible s'est terminé en 2001. Ça a fonctionné, en quelque sorte. Morrison, depuis ce temps-là, est continuellement en train de déculper l'usage des sigils dans son œuvre. Donc, tout ce que vous pouvez voir présentement avec l'usage qu'il fait de Batman, tout ce qu'il a fait avec Superman, All-Star Superman, est un énorme hyper-sigil. Ça, c'est quelque chose que lui, il appelle... c'est une pratique qu'il a lui-même créée, en quelque sorte, l'hyper-sigil. Et c'est une pratique qui est aussi commune chez Alan Moore. Alan Moore a fait la plus grande utilisation de l'hyper-sigilisation dans son titre Promethea, en prenant des textes et en prenant de la peinture classique et en créant des objets mystiques très, très, très condensés pour faire, comme je vous dis, des projections mystiques à gauche et à droite. Il y a quelques personnes qui pourraient argumenter que le masque de Guy Fawkes est un sigil, est une pratique de magie populaire. Fait que, pour conclure essentiellement cette idée-là de la magie dans la culture pop, je voulais rouvrir sur ça, sur tous les signes qui sont très communs dans la culture pop. On parle de Harry Potter. Je ne serais pas surpris de voir des gens porter les lunettes de Harry Potter pour être capable, en quelque sorte, de faire un cosplay mystique.
Mais l'éclair sur son...
sur le front, mais les Deadly Hallows, il y a tellement de gens qui se sont fait tatouer le symbole des reliques de la mort, alors que c'est quelque chose qui est arrivé très tard dans le fandom, qui est arrivé au 7e livre, qui est dans le fond, qui était comme une espèce de conclusion, en fait, qui démontrait, en fait, à quel point... Madame Rowling avait pensé à toute son affaire depuis le début, mais qui était comme un symbole, qui était un peu l'arrivée de ce symbole-là qui a vraiment fait que c'est ça qui est arrivé à la fin, mais que tout le monde s'est identifié à ça, que tout le monde se l'est tatoué, que tout le monde s'est fait comme ok, c'est ça c'est Harry Potter, c'est les reliques de la mort.
C'est ça, c'est la compression de toute l'énergie qui existe dans ce fandom-là en un symbole, icône très simple, identifiable, qui sert de vecteur de projection d'énergie ou de propulsion d'intention. Mm-hmm. On voit de plus en plus ça. Ça, c'est des... En fait, j'extrapole plus dans cette direction-là, dans des conférences que je fais sur le cosplay. Le cosplay, c'est une réappropriation mystique, comme on faisait de l'habillement. Je veux dire, les Grecs se costumaient en leur divinité pour être capables d'être un canal de cette énergie-là. C'est essentiellement la même chose qu'on fait quand on s'habille en Yu-Gi-Oh!, quand on s'habille en Harley Quinn, peu importe. Mm-hmm. Il y a quelque chose de très, très, très magique dans le fandom. C'est sur ça que je voulais conclure. Encore un shout-out à Hélène, parce qu'elle a très bien fait ça à la dernière émission. Je veux encourager les auditeurs, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, allez sur iTunes, vous abonner, rate and review. J'espère que vous avez entendu parler du Patreon qu'on est en train de faire pour cumuler de l'argent pour être capable de payer des artistes. On est vraiment en train de travailler fort là-dessus pour essayer de ramasser 100$ par chaque fin de mois. Et quand on a 100$, on va payer quelqu'un pour produire quelque chose. Vous pouvez aller voir notre Patreon, c'est Patreon Pop en stock. Il y a aussi plein d'articles qui s'en viennent. Le dossier Heroes Villain s'en vient. Je vous promets que je suis en train de travailler là-dessus. Continuez votre bon travail, Manovoid. Là, je suis vraiment content de savoir que...
Le jeu est sorti.
Yes. Alexandre, toi, juste...
Y a rien qui se
passe. Continue à être la personne que tu es.
Merci, merci.
Et Elisabeth, pour ton projet qui commence la semaine prochaine.
Si tu me permets aussi, je vais faire juste deux annonces. Mon émission à CISM, Le Boudoir des Imparfaits, donc le dimanche de 16h à 17h. Dimanche, il y aura une... on va diffuser une émission sur le cosplay. Alors, si vous avez... si en plus, on vient juste d'en parler. Donc, on va recevoir deux cosplayers et une fille qui fait du burlesque, en fait, pour qu'on parle du costume. Et on va parler aussi beaucoup de... En fait, c'est drôle parce qu'on va parler aussi un peu de Problematic and the Fandom. Mm-hmm. Donc, ça fait un lien avec d'autres émissions qui s'en viennent à Pop en Stock. Et aussi, le projet de Choc, donc Les Amazones, que je vais animer, que Jean-Michel m'a beaucoup aidé à monter. Le show va commencer la semaine prochaine, donc le mercredi. On va parler de spasmes, entre autres. Soyez à l'écoute. On ne sait pas encore si ça va être 10 ou 11 heures le mercredi en avant-midi, mais bientôt, il y aura une page Facebook et tout.
Merci beaucoup à vous pour la participation. Merci aux auditeurs. On va quitter avec Magic de Olivia Newton-John parce qu'on est ce genre de monde-là, nous autres. No one.